Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mardi Politique. C'est le député Les Républicains Benoît Apparu, ancien ministre désormais. Porte-parole d'Alain Juppé qui nous accompagne ce soir sur RFI. Bonsoir.
Bonsoir.
Benoît Apparu, bienvenue.
Merci
pour
de votre
interroger.
Invitation.
À mes côtés, Roselyne Fèvre de France 24, Alain Auffray de Libération. Bonsoir à tous. Alors, on reviendra bien sûr dans la deuxième partie de l'émission sur la grande primaire de la droite et du centre, toujours dominée par Alain Juppé, votre candidat, donc Benoît Apparu. Juppé qui fait toujours la course en tête et écrase même toute concurrence à 6 mois du scrutin. Alors, on vous sait pragmatique, vous savez garder la tête froide, comme on dit, Benoît Apparu, mais pour autant, en deux mots, dans l'équipe Juppé, comment gère-t-on cette victoire annoncée ou bien encore cette défaite impossible? Ça fait une drôle de campagne, non?
C'est pas une drôle de campagne, c'est plus facile de gérer une avance de sondage que de gérer un très gros retard dans les sondages. Et j'imagine bien volontiers que tous les autres candidats échangeraient volontiers leurs sondages contre les nôtres. Donc c'est, me semble-t-il, plus facile, cette gestion-là, que l'inverse. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, je vais prendre tous les usages, toutes les précautions d'usage. C'est pas gagné, il va se passer plein de choses en 6 mois, la vraie campagne n'a pas encore commencé.
Ça commence en septembre.
Mais c'est vrai que pour l'instant, on a le sentiment que la posture d'Alain Juppé, la personnalité d'Alain Juppé, la façon dont il a travaillé son projet, plaisent aux Français. Maintenant, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est gravé dans le marbre? C'est une question à laquelle on en aura la réponse, a priori, les 20 et 27 novembre prochains.
On y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Pour commencer, place à la chaude actualité française, la fronde sociale qui se radicalise sur fond de rejet de la loi travail, la loi El Khomri, et qui menace le pays de paralysie. Blocage de raffinerie, grève annoncée dans les transports aériens, la SNCF, à la RATP, manifestations et violences, la contestation tourne au bras de fer entre le gouvernement et la CGT. C'est la chienlit, tonne l'opposition, le gouvernement dénonce lui la prise en otage des Français, mais entend tenir bon, pas question de céder, alors que pour le président Hollande, eh bien, le blocage n'est porté que par une minorité. On écoute le chef de l'État, c'était ce matin sur France Culture.
Nous sommes dans un jour où il y a des conflits, des occupations.
C'est vous qui venez. Mai 68.
La référence historique, vous dites, ça peut être mai 68. Nous ne sommes pas du tout dans ces circonstances. Là, on est dans un conflit assez traditionnel comme il en a existé.
Vous n'y croyez pas.
Ça ne veut pas dire négliger ce qui se passe. Ça ne veut pas dire considérer que ça ne mérite pas une forme de respect par rapport à ceux qui ont des revendications légitimes. Mais ça ne me conduit pas non plus à accepter ce qui est aujourd'hui un blocage qui est fondé simplement par une stratégie portée par une minorité.
Voilà, c'est pas mai 68, dit le président, mais un blocage porté par une minorité. Est-ce que vous partagez ce double sentiment, Benoît Apparu?
Oui, ce qui est dit là ne me choque pas outre mesure. C'est effectivement une minorité, c'est effectivement assez loin de mai 68. Et ce sont des blocages, des manifestations dont on commence à avoir une forme d'habitude. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans ce que nous vivons, c'est pas ça. C'est pas les blocages. Et j'imagine, j'espère que ça se débloquera un jour, rapidement bien évidemment. Et comme tout le monde, je demande au gouvernement d'utiliser les forces de l'ordre pour débloquer la situation, puisque on ne peut pas accepter qu'une minorité, comme on dit traditionnellement, prenne en otage ceux qui veulent tout simplement aller bosser.
Ça va jusqu'à la réquisition des personnels, votre
demande ? Ça va jusqu'à la réquisition des personnels, si besoin est, bien évidemment. Ce qui est plus intéressant, je trouve, que ces formules assez consacrés des uns comme des autres, c'est d'analyser les raisons de ce blocage et le pourquoi de ce blocage. Ce qui est fascinant, c'est qu'on a une loi qui a quasiment été vidée de son contenu entre la version initiale présentée par le gouvernement et celle qui a été discutée au Parlement, et on en arrive quand même à un blocage. Autrement dit, voilà un pays à moitié bloqué pour une loi dont tout le monde sait qu'elle ne produira quasiment aucun effet. J'en veux pour preuve des déclarations ministérielles ce matin même, c'est-à-dire de la part du gouvernement. Et je trouve assez fascinant de se dire qu'avec pas grand-chose, on arrive quand même à bloquer le pays. Ça veut dire quoi? Qu'on a eu un problème de méthode. Qu'il y a une absence totale de légitimité de ce gouvernement à faire cette réforme-là, pour une raison très simple. Le gouvernement, ou plutôt le candidat François Hollande, a fait une campagne à l'opposé de la façon dont il souhaite effectivement gouverner le pays. Cette incohérence-là, ce péché originel, ne sera jamais pardonné à François Hollande, et c'est la raison principale pour laquelle il ne pourra pas réformer le pays.
Est-ce que la CGT est illégitime également dans son action, comme le dénonce le ministre des Finances, Michel Sapin ?
Alors, la CGT n'est en rien illégitime dans ses revendications. La CGT est clairement illégitime dans son action, jusqu'à preuve du contraire. Dans une démocratie qui se respecte, le seul à pouvoir faire usage de la force, c'est l'État. C'est jamais un syndicat ou jamais une minorité qui a le droit de bloquer quoi que ce soit. La grève, là encore, formule consacrée, la grève est légitime, le blocage est illégitime.
Roselyne Fèvre.
Vous ne pensez pas que c'est plutôt un problème de réforme, un problème entre les Français et la réforme qui pose problème ? Parce que imaginez que François Hollande ait, alors bien sûr avec des si, mais ait proposé cette politique qu'il fait aujourd'hui, est-ce que pour autant les gens ne seraient pas dans la rue ?
Les questions de méthode sont absolument fondamentales.
Mais la méthode, il y en a eu, puisqu'il y a eu des dialogues préalables.
Pardonnez-moi, je reviens sur ce que moi j'appelle la méthode.
Oui, d'accord,
pardon. Je
ne
dis pas qu'il y a pas une concertation, mais je reviens sur ce que j'appelle moi la méthode. Un gouvernement, ou plutôt un candidat, qui fait une campagne électorale à gauche toute, et qui gouverne en social-libéral, ce n'est pas compréhensible. Pardonnez-moi de vous rappeler l'histoire. Les grandes grèves de 95, c'est un peu la même histoire. En 95, Alain Juppé, en 95, Jacques Chirac fait une campagne électorale sur la fracture sociale. Il ne fait pas une campagne électorale sur la quasi-faillite du pays et donc des réformes lourdes pour se qualifier pour l'euro. C'est bien cette mésentente totale entre un programme électoral et une mise en œuvre électorale qui pose problème. Premier sujet de méthode. Deuxième sujet de méthode. C'est pas au bout de 4 ans qu'on engage ce type de réforme. C'est très vite. 6 mois, 1 an maximum, pour ensuite passer à la mise en œuvre des choses. Mais engager ce type de réforme au bout de 4 ans, ça n'a pas de sens.
Est-ce que vous considérez qu'en 95, Chirac a lâché Juppé, justement, sur ces réformes ?
Je crois pas. Il y a un moment, 3 semaines de grève, il fallait probablement lâcher. Mais il y a vraiment une question fondamentale qui est celle de la légitimité à réformer. Les Français me semblent prêts à accepter la réforme. Les Français me semblent prêts à considérer qu'il faut changer en grande partie le système. J'ai pas de doute par rapport à ça. Simplement, les Français en ont probablement ras-le-bol, et on peut les comprendre, que pendant les campagnes électorales, on bombe le torse, on fait une campagne juste pour gagner, et puis ensuite, on fait autre chose. Ça, ce n'est plus crédible, ça ne marche plus, il faut l'arrêter. Et il faut donc avoir des campagnes posées, sérieuses, crédibles, pour acquérir au moment de l'élection présidentielle la légitimité d'action. Et ensuite, il faut passer très vite à l'action, pas au bout de 4 ans.
Alain Frey.
On entend bien l'argument du pêcheur originel, mais il y a quelque chose qui est assez peu crédible dans ce que vous dites, c'est le jugement que vous portez sur le texte en question. Vous dites la France est bloquée pour rien. Je pense que les Français ne peuvent pas comprendre ça. C'est vraiment pour rien que la CGT remue comme ça ciel et terre, que la CGT bloque des raffineries ?
Ah oui ?
C'est vraiment pour rien ?
C'est pas pour rien, pardon. Peut-être, parce qu'il y a un processus électoral syndical dans pas très longtemps. Peut-il y avoir des relations de causalité dont on nous dit que la CFDT pourrait ravir à la CGT la première place dans le paysage syndical français. Et donc il peut y avoir aussi des relations de causalité entre l'un et l'autre. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on voit bien que les processus électoraux peuvent avoir tendance à générer chez les candidats des coups de menton, un peu de démagogie, beaucoup de surenchères, juste pour gagner les élections. Périodes-là, syndicales comme politiques, on doit arrêter si on veut effectivement réformer la France.
Sans doute, mais cette fameuse affaire d'inversion des normes, de pouvoir plus au niveau de l'entreprise qu'au niveau de la branche, c'est rien. Est-ce que c'est quand même quelque chose que vous n'avez pas fait et que vous ferez certainement, par ailleurs ?
Que nous ferons certainement. Ouais. Simplement, là encore, regardons la réalité du contenu du texte. Il y avait dans la V1, non concertée d'ailleurs, il y avait dans la V1 un certain nombre de choses intéressantes. Et nous étions d'ailleurs beaucoup dans l'opposition à avoir annoncé que nous voterions le texte s'il restait en l'état. Puis nous avons eu des premières manifestations plutôt des jeunes. On n'entend plus parler maintenant, mais des manifestations plutôt des jeunes. Allez hop, avant même que le texte sorte au Conseil des ministres, une pause de 15 jours, on remanie le texte et on enlève à peu près tout ce qui gêne. Alors, dont acte, il reste 2-3 petites choses. Mais ça reste 2-3 petites choses. Et c'est vraiment une question pour moi de méthodologie et de calendrier. avec une méthodologie comme celle-là et un calendrier comme celle-là, comme celui-là, pardon, oui, pour pas grand-chose, on bloque. Mmh. Je peux vous rappeler une réforme similaire il n'y a pas très longtemps, qui a eu des résultats à peu près similaires.
Laquelle ?
Vous rappelez peut-être d'une affaire politique qui nous a occupés au moins pendant 3 mois, la déchéance de nationalité. Voilà une réforme purement symbolique qui a pas bloqué le pays, mais juste abouti à un remaniement ministériel et une cassure de la gauche pour une réforme dont tout le monde savait qu'elle ne produirait aucun résultat pratique. Dans la lutte contre le terrorisme, eh ben c'est à peu près pareil, des réformes faibles, pour pas grand-chose, mauvaise méthode et on bloque tout.
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Benoît Apparu ? Est-ce que le gouvernement a raison de tenir bon, à jouer, on le voit bien, hein, sur l'essoufflement du mouvement, ou est-ce qu'il faut purement et simplement retirer cette loi El Khomri, comme le demandent certains de...
Oui. Moi, j'aurais tendance à dire que le gouvernement doit tenir. Et que là encore...
Il faut pas retirer la loi El Khomri.
Je ne le crois pas. On ne cède pas. On ne cède pas, me semble-t-il, devant la rue et les blocages. Il faut que les gouvernants aient ce courage-là de tenir sur leurs fondamentaux. En l'occurrence, je confirme que cette loi est une mauvaise loi. Je confirme que cette loi ne va pas assez loin. Je confirme que la méthodologie a été mauvaise. Il n'en demeure pas moins que, une nouvelle fois, j'allais dire, céder devant la rue serait une erreur tactique profonde pour les réformes futures. À venir.
Même au risque d'un embrasement généralisé, on voit les appels à la grève, à la SNCF, à la RATP, dans les transports aériens. Vous disiez il y a un instant que cette loi avait été vidée de sa substance et que de fait ça créait beaucoup de désordre pour pas grand chose.
J'entends bien. Est-ce à dire donc,
et maintenant vous dites,
à vous écouter, j'essaie d'être cohérent.
Également.
Est-ce à dire que sous prétexte qu'il y a donc des risques de grève générale, de blocage de la France, il ne faut plus rien faire ? On risque pas de faire les réformes dont on nous dit les uns et les autres que depuis 30 ans, nous n'avons toujours pas faites. Enfin, à ce rythme-là d'analyse, si on commence à dire « Ah ben non, il y a un risque de blocage, donc je fais rien », effectivement, on risque pas de faire beaucoup de réformes dans ce pays. Et donc, c'est bien dans l'articulation calendrier-méthodologique qu'on trouvera des solutions pour effectivement réformer enfin ce pays. Alors, pour si ce qui me concerne, que la loi sortirait ou pas ne change pas grand-chose sur... la qualité du dialogue social en France, ou sur le résultat économique d'entreprise. Par contre, qu'une nouvelle fois un gouvernement recule devant la rue, en termes d'autorité de l'État, ça poserait problème. Et pour moi, l'autorité de l'État est plus importante que le reste.
Ça pose problème à qui ? À
l'opposition ? Ça pose problème globalement à l'autorité de l'État. Pas à la majorité, pas à l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes l'opposition, demain la majorité, après-demain de nouveau l'opposition. Mais la question de l'autorité de l'État, dont on sent bien qu'elle se délite depuis un grand nombre d'années, et notamment de la part des actions de ce gouvernement, ne me paraît pas une bonne chose.
Roselyne Fèvre.
Si on vous suit, il y a eu tromperie sur la marchandise de François Hollande face à son électeur. Voilà, je vous ai bien suivi. Donc ça veut dire que si vous, dans un premier temps, vous affichez la couleur, ça va passer comme une lettre à la poste ?
J'ai pas dit ça.
Je vous pose la question.
J'ai pas dit que ça passerait comme une lettre à la poste. Je dis simplement que si on veut avoir la légitimité pour porter des réformes, il faut les avoir clairement annoncés avant l'élection. Autrement dit,
comme ça, vous ne serez pas élu, peut-être.
Peut-être, mais au moins, ayons ce courage-là de dire la vérité aux Français sur ce qu'on fera pour qu'on ait un mandat clair de la part des Français. Si ce qu'on propose, y compris lorsque c'est difficile, surtout quand c'est difficile, on le planque pour le ressortir au lendemain de l'élection, nous ferons la même erreur que François Hollande. Et ce n'est pas comme ça qu'on gouvernera la France.
Alain Onfray.
Quand on voit la situation du pays avec un blocage sur le front social énorme, une majorité de gauche, enfin une majorité qui n'existe pratiquement plus, est-ce qu'il vous arrive à la buvette de l'Assemblée dans vos bavardages, est-ce qu'il vous arrive d'imaginer que ce quinquennat n'ira pas à son terme ?
Ça fait partie des fantasmes du moment. Est-ce que le quinquennat ira à son terme ? Est-ce qu'il y aurait une dissolution ? On en parle à la buvette, mais pas qu'à la buvette. On parle aussi beaucoup aux quatre colonnes. Vous savez l'endroit où les journalistes et les politiques se retrouvent. Vous tendez effectivement vos micros parce qu'il y a ce forme de fantasme. Je n'y crois pas un seul instant. Parce que je ne crois pas que le gouvernement abandonnera, entre guillemets, son pouvoir et l'année qui lui reste de réforme, premier élément. Deuxièmement, je ne le souhaite pas.
Pourquoi ?
Pour une raison très simple, nous avons déjà une crise économique, nous avons une crise sociale, on va peut-être pas y rajouter une crise politique de première ampleur, avec à peine un an avant l'élection présidentielle, une cohabitation en France. Franchement, ce serait vraiment pas sérieux, vraiment pas crédible, et l'ensemble de la classe politique y perdrait encore plus de sa légitimité et de sa crédibilité.
C'est pas parce que vous n'êtes pas prêt dans l'équipe Juppé.
C'est pas une question d'être prêt. Je pense que nous sommes prêts et que nous avons dans nos tiroirs, comme dirait l'autre, un certain nombre de réformes que nous pourrions porter et que nous pourrions mettre en place. Simplement, comment imaginer porter une réforme quand vous avez une élection présidentielle qui resterait à date fixe, grosso modo 10 ou 11 mois après votre entrée à Matignon? Ça n'a pas de sens. Et le seul résultat d'une dissolution, ce serait probablement un score encore meilleur, voire pire, si besoin, en 2017 à la présidentielle.
D'accord. Dans un tel contexte de désordre social qu'on vient d'évoquer, ajouter aux menaces terroristes, comment peut se dérouler sereinement l'Euro de football? Est-ce que c'est pas là un risque? C'est dans 3 semaines.
C'est peut-être un risque.
Ouais.
Mais c'est-à-dire qu'on fait quoi? Qu'on annule l'Euro? Bien sûr que non. Donc il faut que l'Euro se tienne. Alors oui, il y a un risque social. Oui, il y a un risque sécuritaire. Et donc nous avons deux risques relativement importants.
On a pu mesurer encore samedi dernier pour la Coupe de France.
Bien sûr, au gouvernement de faire son boulot. C'est-à-dire de sécuriser les stades, de sécuriser l'extérieur des fan zones et d'éviter, en utilisant la force si nécessaire, les blocages. Parce que là encore, imaginez, dans le sous-entendu de votre question, l'image internationale de la France, si nous devions annoncer 3 semaines avant l'événement, 3 semaines avant l'événement, que grosso modo on l'annule, ou alors qu'on supprimerait les fan zones. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que des spectateurs français qui viennent assister au match de football, qui viennent faire la fête. Il y a aussi plein de spectateurs étrangers. Tant mieux d'ailleurs pour l'économie du pays. Et on va faire quoi? Pas les accueillir? Rien organisé pour eux? Ça n'a pas de sens.
J'ai une question justement sur les fan zones. Il se trouve que pas mal de certains responsables de votre parti réclament la suppression, l'annulation des fan zones, notamment dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, ses porte-paroles. Il se trouve que Alain Juppé est, je sais pas comment on appelle, président du club des villes organisatrices et qu'il est favorable aux fan zones. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas une relation de cause à effet.
Vous voyez le mal partout. Ouais. Sincèrement, vous voyez mal partout, ouais. Et ça me surprend.
C'est un peu le métier.
Ça me surprend de votre part. Je n'imagine pas un seul instant qu'il puisse y avoir ce type de relation de cause à effet entre les positions des uns et les responsabilités des autres.
Voilà,
il se trouve que oui, Alain Juppé est maire d'une des grandes villes françaises qui va accueillir l'Euro. Et donc, en tant que responsable de la mairie de Bordeaux, il organise l'accueil des spectateurs via la fan zone dont on parle, pour que l'Euro soit une belle fête, pour que l'Euro soit un bon moment pour tous les spectateurs français ou étrangers qui iront à Bordeaux ou ailleurs. Donc il fait son job en la matière. Mais là encore, imaginons les conséquences économiques, sociales, morales d'une annulation de ce qui est censé être une fête. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que sous prétexte qu'il y a un risque social, on donnerait raison à la CGT et une victoire à la CGT qui aurait obtenu, en gros, la fin des fan zones, mais plus grave encore. On donnerait raison à Daesh, on donnerait raison aux terroristes que d'accéder quelque part à leur demande en ayant tellement peur qu'on arrêterait tout.
Faut expliquer ça à Nicolas Sarkozy.
Il faut faire ces fan zones et il faut évidemment que l'État sécurise les fan zones en question.
Voilà, c'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve juste après les infos pour parler avec Benoît Apparu du programme d'Alain Juppé et de la primaire de la droite et du centre.
Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Mardi Politique, deuxième partie, toujours en compagnie du député Les Républicains Benoît Apparu, porte-parole d'Alain Juppé, candidat à la candidature pour la présidentielle de 2017, pour vous interroger Alain Auffray de Libération, Roselyne Fèvre de France 24. Alors, on l'évoquait dans la première partie de l'émission, c'est une société fracturée qu'aura à gérer le futur président, hein, quel qu'il soit en 2017. Il y a du boulot, comme on dit. Alors, vous nous avez expliqué que dans l'équipe Juppé, eh bien, vous avez tiré les leçons du conflit actuel, que s'il est élu, Alain Juppé, eh bien, mettra sur la table quelques grandes réformes très vite au début du quinquennat. Et tout ça par ordonnance. Comment ça va se passer? Comment ça peut se passer?
L'idée, c'est vraiment d'annoncer la couleur de façon très claire, très précise, avant le scrutin. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous ne sommes pas contentés de faire un bouquin avec 250 pages pour traiter 25 sujets, mais que nous avons souhaité publier 3 livres sur 3 thématiques de réforme pour aller dans le détail. Et pas se contenter, entre guillemets, de la surface des réformes et des jolies formules, des jolis slogans que nous avons l'habitude, les uns et les autres, de faire en campagne électorale. Donc, avant la campagne, annoncer lourdement la couleur, en profondeur, pour que les choses soient clairement sur la table. Une fois, si ça se déroule, bien évidemment, une fois l'élection présidentielle passée, l'idée, c'est d'aller effectivement assez vite pour la mise en place des 8-10 grandes réformes et de le faire, pour certaines d'entre elles, par ordonnance, pour aller effectivement assez vite. À partir du moment où nous avons un mandat clair donné par les Français, nous avons la légitimité pour, par ordonnance, dès lors que là encore ça a été annoncé, y compris sur la méthode avant, à mettre en place ces réformes très vite.
Bon, les
c'est
ordonnances,
ça la double articulation.
C'est prévu par la Constitution. Le nouveau président aura bien sûr la légitimité du président nouvellement élu. Il leur a dit avant ce qu'il va donc faire après. On est tous bien d'accord. Pour autant, est-ce que c'est pas quelque part une brutalité que de faire passer des grandes lois par ordonnance sans même repasser devant l'Assemblée nationale,
elle
aussi
nouvellement élue. On est assez d'accord que c'est un moment.
Ni les syndicats.
On est assez d'accord que c'est un outil exceptionnel pour gouverner. Mais là encore, comme on l'évoquait tout à l'heure. On l'explique avant. Roselyne Fèvre nous disait tout à l'heure, vous n'allez peut-être pas être élu avec ça, c'est possible. Les Français choisiront. Ils vont savoir, un, ce qu'on veut faire, et deux, comment on va le faire. Ils prennent pas, c'est leur choix. C'est ni à vous de le décider, ni à moi d'ailleurs. On leur dit, voilà ce qu'on veut faire. On leur dit, voilà qu'on va le faire, c'est-à-dire avec des ordonnances. Voilà le calendrier de mise en œuvre.
Signez-la.
Soit ça vous paraît intéressant et vous achetez, entre guillemets, via l'élection, soit vous n'en voulez pas pour les raisons que vous avez évoquées. Les réformes ne plaisent pas, la brutalité ne plaît pas, ce que vous voulez, peu importe, ils ne prennent pas.
Qu'est-ce qu'on fait passer en premier comme ordonnance?
Il n'y a pas une. On veut essayer d'éviter l'idée qui consisterait à dire qu'avec une réforme, on règle tout. Ce n'est pas vrai. Il faut une batterie de réformes, il faut 7-8 grands textes de fiscalité, du code du travail, d'organisation du travail en tant que tel, sur les charges. Il y a un certain nombre de sujets à mettre en place assez vite pour effectivement provoquer une forme de déclic, entre guillemets, de confiance, de rupture par rapport effectivement aux traditions françaises. Et puis ensuite, la mise en œuvre via la loi de finances, via etc., etc., de l'ensemble des outils que nous avons proposer, que nous proposons notamment pour lutter contre le chômage.
Sur le code du travail, justement, une petite question. Vous reprenez la loi El Khomri et vous
en faites
quoi ?
Beaucoup plus loin.
Mais vous la reprenez ?
Et on va beaucoup plus loin. On va dans cette inspiration-là, mais plutôt sur la version 1. On en a d'ailleurs plus loin que la version 1.
Sur la V1.
Sur la V1 que sur la V2 ou la V3, puisque nous sommes dans la V3.
Je voulais vous soumettre un problème. Est-ce que vous ne risquez pas d'être piégé par la primaire ? Vous allez être une demi-douzaine de candidats face à un électorat qu'on connaît à peu près, 4 millions, peut-être 3 millions de personnes, qui sont a priori des personnes d'un électorat de la droite et du centre très favorables à des réformes dures, radicales, sur le travail, sur l'éducation, sur le régalien, etc. Donc vous allez faire cette campagne et il va y avoir un vainqueur. Le vainqueur va être donc contraint, d'une certaine manière, de défendre un programme extrêmement dur, extrêmement libéral. Est-ce que vous craignez pas qu'après, dans le débat gauche-droite classique, parce que peut-être finalement il y aura un vrai candidat de gauche, on ne sait jamais, on peut quand même faire cette hypothèse. Si ça arrive, est-ce que vous ne pensez pas que ça va être difficile de tenir quand même sur cette ligne ?
On a peut-être une différence sur les qualificatifs.
Allez-y.
Je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement libéral ou extrêmement dur. Nous, ce qui nous paraît utile, dans le cadre des propositions que nous faisons, c'est de savoir si elles sont justes et savoir si elles sont efficaces. C'est peut-être la seule question qui vaille. Alors ensuite, que ce soit extrêmement dur, extrêmement libéral ou extrêmement tout ce que vous voulez, peu importe. Premier élément. Deuxième élément, nous ne participerons pas à une forme de surenchère pour être le plus dur du plus dur, le plus libéral du plus libéral, ou plus ce que vous voulez du plus que vous voulez.
Vous y êtes déjà un peu.
On fait ce qui nous paraît juste et utile. Un programme qui, vu de l'Angleterre, serait centriste, je le rappelle quand même, hein, parce que la gauche anglaise va beaucoup plus loin dans le libéralisme que ce que nous proposons.
Voilà, donc, vous réclamez encore, pas de Margaret
n'oublions
Thatcher.
Pas, n'oublions pas quand même que la position française dans le droit de gauche, par rapport à ce qui se passe dans la plupart des grands pays, est une position assez caricaturale. Et ce qui est normal dans la plupart du pays est qualifié chez nous d'extrêmement libéral, d'ultra-libéral, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Donc, essayons d'éviter ces qualificatifs. Nous, on essaie de construire un programme qui nous paraît juste, qui nous paraît crédible, et qui est un programme pour nous pour gouverner. Pas un programme pour gagner la primaire, pas un programme pour gagner la présidentielle, un programme pour gouverner. Et nous faisons attention, dans chacun des arbitrages qu'Alain Juppé rend, de savoir si c'est possible... pas possible, utile, pas utile. Derrière, que ce soit électoralement bon ou pas, tant mieux, mais ce n'est pas le sujet principal. Alain Juppé est convaincu de cette chose, si on veut changer la façon dont les Français regardent la politique, c'est de se dire qu'il nous faut arrêter des campagnes purement électoralistes, qui n'ont qu'une vocation, séduire les électeurs pour oublier juste après ce qu'on a dit. Et nous, nous pensons que l'essentiel et le rôle d'un homme d'État, c'est de gouverner, c'est d'exercer le pouvoir, pas juste de le conquérir.
Rosine Pèvre.
Alors, je vais au-delà de la question d'Alain. Si Alain Juppé est élu, mettons, hein, hypothèse aujourd'hui probable, si on regarde les sondages, donc vous gouvernez par ordonnance. Donc, vous considérez que ça pourra passer, comme disait tout à l'heure Véronique, c'est-à-dire une petite loi comme ça, qui ne passe même pas, sous prétexte qu'il y a eu trahison sur la marchandise, vous pensez que l'urne sera plus forte que la rue?
En tout cas, en démocratie...
Si vous rêvez pas tout habillé,
mais
là.
Peut-être qu'on rêve, c'est possible. C'est pas parce que il y a un risque de grève qu'on va s'arrêter de réformer. Parce que sinon, là encore, on n'a plus qu'à changer de métier, à rentrer à la maison et à faire autre chose. Si effectivement on commence d'ores et déjà à se dire oulala, il y a peut-être un risque de grève.
Avec les partenaires sociaux, vous faites comment ?
Par
exemple, vous demandez le quitus de la CFDT, par exemple.
Je vais y arriver sur la question des partenaires sociaux, qui est évidemment fondamentale. Donc, premier élément, c'est pas parce qu'il y a des risques qu'on va rien faire. Et s'il y a des risques, tant pis, on assumera ces risques et on fera quand même les réformes, même si derrière il y a des grèves, même si derrière il y a des manifestations, parce qu'on en a besoin dans le pays. Premier élément. Deuxième élément, on a une période très atypique en France, qu'on connaît finalement assez peu, qui est la période qui sépare la primaire de l'élection présidentielle. Et cette période d'entre deux élections, primaire, présidentielle, c'est une période qui doit nous permettre de préparer
les esprits.
Les esprits, de préparer aussi par des discussions avec les syndicats ce que l'on fera après. Parce qu'on voit bien qu'il faut aller très vite. On voit bien que le premier été raté de François Hollande.
C'est un travail qui est déjà en cours avec les syndicats et l'équipe.
J'ai dit entre la primaire et la présidentielle. On a bien évidemment rencontré un certain nombre de partenaires sociaux pour la préparation des ouvrages. On en a discuté avec eux, mais des choses plus fournies, évidemment, interviendront après la primaire. Pourquoi c'est essentiel, ce timing-là, ce tempo-là? Parce qu'on voit bien que François Hollande, après son premier été considéré comme raté par tout le monde, a été quasiment cramé tout de suite. Et dès septembre, il avait perdu la main. Et donc, il faut être prêt tout de suite à gouverner tout de suite, avec des équipes professionnelles tout de suite, avec effectivement des textes déjà prêts, déjà fortement discutés et négociés avec les partenaires sociaux pour pouvoir agir très vite.
Alors, le programme économique d'Alain Juppé a été plutôt bien reçu par les Français, hein, si j'en juge les sondages. D'accord pour la retraite à 65 ans, c'est ce que vous proposez. L'alignement des retraites des fonctionnaires sur celle du public, la baisse drastique de la dépense publique à hauteur de 100 milliards d'euros.
85
à 100 milliards, je suis dans la fourchette haute, mais bon, on est raccord sur les chiffres. Il y a juste une chose qui pique un peu.
C'est l'ISF.
Est-ce que ça vous a surpris que cet impôt de solidarité sur la fortune, voilà, les gens, les Français, en règle générale, en tout cas ce que disent les sondages, les Français veulent le maintenir. Ce symbole-là est
ça
important.
Ça ne me surprend pas que le symbole soit fort, puissant, et que les Français y restent attachés. Mais là encore, ce n'est pas une raison
pour ne pas
le supprimer quand on considère que c'est une erreur que d'avoir cet impôt-là. Mmh. Je vais essayer de vous faire une démonstration chiffrée très rapide. Quand vous avez une entreprise qui dégage une centaine d'euros de bénéfices une année et qu'elle veut distribuer ces 100 euros de bénéfices à ses actionnaires. En France, après taxation normale, il reste 36 euros dans la poche de l'actionnaire. En Angleterre, en Espagne, en Italie ou en Allemagne, il reste une cinquantaine d'euros. De 47 à 52, si mes souvenirs sont bons, c'est une fourchette. 36 euros en France, sans l'ISF. Une fois qu'on met l'ISF, vous savez combien il reste à l'actionnaire ? 3 euros. Vous avez 100 bénéfices réalisés. Une fois toutes les fiscalités passées, plus l'ISF, il vous reste 3 euros. Est-ce que vous pensez que c'est avec ce type de modèle-là qu'on va attirer des investisseurs en France ? Ce matin sont sortis les chiffres de la compétitivité, je crois, où on a une compétitivité française en recul de 2% par rapport à nos plus grands concurrents. Est-ce qu'on vous pensez que c'est avec ce type de chiffres-là, ce type de fiscalité-là, qu'on va redevenir attractif aux yeux du monde? Vous avez un débat qui nous occupe les uns les autres aujourd'hui, l'entreprise Technip, qui fusionne avec un Américain et qui met son siège juridique à Londres. Nous avons 5 entreprises du CAC 40 qui, dans la dernière année, ont décidé de changer leur siège social pour quitter la France, juridique, hein, bien sûr, pas les employés, pour aller à l'étranger. Peut-être qu'il faut qu'on s'interroge là-dessus. Peut-être qu'il faut se dire pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés à ce type de situation-là. Et peut-être qu'il y a effectivement un certain nombre d'outils, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si tout le monde nous dira vous faites un cadeau aux riches. Non.
C'était le symbole. Vous allez trouver d'autres symboles.
Je sais bien que c'est le symbole. On espère qu'on arrivera à faire comprendre, et on n'y arrivera peut-être pas, que l'idée n'est pas de faire un cadeau aux riches, que l'idée c'est de faire un cadeau aux entreprises qui créent l'emploi dont nous avons besoin en France. Voilà.
Mais est-ce que vous n'êtes pas parfois un peu injuste avec François Hollande qui a quand même ouvert la porte avec le CICE ? Alors même s'il a été mal ciblé au début...
Pardonnez-moi, c'est pas du tout le même sujet.
Non.
C'est un sujet de baisse des charges qui n'a strictement rien à voir, qui est très important, bien évidemment, et qui n'a rien à voir.
Plus largement, on va dire.
Plus largement. Peut-être que nous sommes injustes, mais rappelons-nous l'histoire. Quelle a été l'une des premières décisions de François Hollande ? Supprimer ce qu'on avait appelé la TVA sociale, la TVA compétitivité.
C'est pour ça qu'il a augmenté les impôts.
Il l'a supprimé. Bon. Pour enfin, après, un rapport, réinventer un équivalent, c'est-à-dire monter la TVA et créer ce fameux CICE, qui était exactement le même principe que la TVA sociale, sauf qu'on a fait une usine à gaz un poil plus compliquée que la simple TVA sociale que nous avions mise en place. Et donc, le CICE, effectivement, participe à cette idée générale qui consiste à dire il faut baisser les charges des entreprises pour que le coût du travail...
Donc, le raisonnement était bon, au moins.
Mais le raisonnement était intéressant. On a mis 3 ans à le faire avec un truc un peu compliqué qui est rediscuté chaque année et qui, donc ne donne pas de lisibilité à l'entreprise.
Alain Frey.
Encore une question de méthode. Vous mettez donc sur la table, comme d'ailleurs les autres candidats, des réformes que vous jugez indispensables. Et donc, vous avez d'ailleurs expliqué tout à l'heure que ben, vous prenez le risque d'aller avec ces réformes claires et nettes devant les électeurs. L'un des candidats, qui n'est peut-être pas le plus redouté par vous, mais Bruno Le Maire, pousse la logique jusqu'au bout et dit « moi, je ne négocierai pas ». Parce que négocier, ça veut dire amender, reculer, etc. Et donc il dit, ça paraît assez logique d'une certaine manière, sans doute difficile à entendre, mais assez logique dans la démarche dans laquelle vous êtes tous.
Non. Pour ce qui me concerne, je n'irai pas jusque-là, parce qu'on ne peut pas dire d'un côté qu'on veut redonner de la puissance au dialogue social dans l'entreprise, que c'est une des pierres angulaires des réformes que nous proposons, pour dire... on refuse de négocier avec les partenaires sociaux. Non, ça marche pas. Là encore, négocier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire travailler avec, discuter, échanger les points de vue, voir si effectivement, dans les propositions que nous faisons, il n'y a pas des choses qui vont faire un effet, qui vont générer, pardon, un effet inverse à ce qui est recherché. Ça veut pas dire qu'on lâche, ça veut pas dire qu'on revient à zéro, ça veut pas dire qu'on fait rien, ça veut dire qu'il faut discuter. Et ensuite, le rôle du politique, c'est d'arbitrer. Et donc, on discute. Et une fois qu'on a discuté, le rôle du politique, c'est de trancher, de dire « je fais, je fais pas » et d'assumer ses responsabilités.
Allez, un mot sur la primaire. Hein. C'est dans 6 mois maintenant, ce scrutin de quasi tous les dangers. Ça se passe plutôt pas trop mal, mais le ton commence à monter un peu. Par exemple, à votre ami François Fillon, concurrent désormais, vous juge pas votre programme ultralibéral, lui, mais il trouve que c'est bien du Fillon dégradé. C'est pas sympa.
Moi, je ne cherche pas à regarder ce que font, entre guillemets, les autres candidats. Ce qui m'intéresse, c'est de présenter le projet d'Alain Juppé, c'est de parler de sa personnalité, de parler de sa méthode.
Vous pourriez dire non, ce n'est pas du fion dégradé, c'est du
Juppé plus. Mais ça ne m'intéresse pas, sincèrement, de commenter ce que disent les autres. Et je pense que le...
Juppé aurait dit bon courage à Fignon pour son programme ?
Pas que je sache, mais je pense simplement que le meilleur service que nous pouvons nous rendre les uns ou les autres pendant cette primaire, c'est de nous occuper de nous-mêmes. De nous occuper de nos idées, de défendre nos positions, de défendre les personnalités de nos candidats, de défendre les méthodologies sans se préoccuper des autres. C'est la meilleure façon d'éviter le piège.
Chacun dans son couloir, il faudra bien débattre.
Chacun dans son couloir, mais on débattra. Mais quand vous débattez avec quelqu'un, vous pouvez débattre pour essayer de le convaincre de votre position. Vous n'êtes pas obligé d'assassiner les positions de votre concurrent. Et donc vous pouvez très bien imaginer une primaire pour qu'elle se passe bien, où chacun s'occupe de son projet, de son programme, de son candidat, sans se prononcer sur les autres, ça évitera les noms d'oiseaux.
Voilà, ça c'est des vœux pieux, mais est-ce que vous avez le sentiment que chacun saura jusqu'où ne pas aller trop loin
dans
la nécessaire concurrence, dans la bataille
Je vais vous donner un
jouer.
Exemple. Il y a quelques jours, Alain Juppé faisait un déplacement au Maroc. Il rencontre des Français de l'étranger. Un Français de l'étranger lui pose une question visiblement très anti-sarkozyste. Et il répond, je refuse que dans mes réunions publiques, il y ait des scuds contre les autres candidats. Ça a été retweeté par une de vos confrères. Et bien ça me paraît une bonne chose. On n'est pas là pour dire du mal des autres. Et quand on fait une réunion publique, on défend les propositions d'Alain Juppé sur l'école, sur l'autorité de l'État, sur l'économie, sans forcément parler des autres. Parce que parler des autres, mécaniquement, ça nous amène à la critique. Et là encore, je me répète, ce n'est pas souhaitable. Et ce n'est pas comme ça que nous, chez Juppé en tout cas, nous envisageons la primaire.
Oui, ça c'est comme vous souhaiteriez que cela se passe. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment, en tout cas, que chacun saura jusqu'où il ne faut pas aller trop loin, que tout le monde soit rassemblé derrière le gagnant en novembre. Sinon, c'est quoi ? C'est le Front National ? Est-ce que vous mesurez ce risque-là ?
Il y a un risque, mais il y a plusieurs risques. Si on ne fait pas de primaire,
ça, y a des risques.
On a la garantie de ne pas être qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. Premier élément. Si la primaire se passe mal, c'est-à-dire nom d'oiseaux, bordel, division, tout ce que vous voulez, le risque est exactement le même.
C'est comme ça que
donc on a un chemin qui est très simple, finalement. Pas de primaire égale second tour Hollande-Le Pen. Une primaire qui se passe mal égale second tour Hollande-Le Pen. Et donc, une primaire qui se passe bien, qui se passe correctement, sans nom d'oiseau, sans division massive, il y aura des critiques, il y aura des pics, c'est normal, mais qui reste dans un couloir acceptable, c'est la garantie d'autre second tour de l'élection présidentielle.
En deux mots, ce sera ma dernière question. L'exemple autrichien avec cette extrême droite qui arrive non pas à 49,3 mais à 49,7, c'est-à-dire qui frôle la victoire, c'est quelque chose que vous devez mesurer pour vous autres.
Oui, et c'est
à droite.
L'analyse autrichienne est plus compliqué
plus,
que ça.
Il n'y a plus de plafond de verre.
C'est plus compliqué que ça, l'analyse autrichienne. Je vais vous donner un exemple. L'extrême droite autrichienne, le patron de l'extrême droite autrichienne, a des responsables dans une région autrichienne. Vous savez qui est associé dans sa région ? Avec le PS. L'équivalent du PS.
Qui veut gouverner avec l'extrême droite.
Il faut, me semble-t-il, qu'on ait
c'est
un regard autrichien peut-être un peu plus subtil que ça. Parce qu'effectivement, ce n'est pas complètement transposable. Donc, attention aux analyses un peu faciles que l'on peut faire en disant « ça y est, la démocratie a été sauvée parce que je ne sais quoi ». C'est beaucoup plus complexe que ça.
Marine Le Pen au second tour, c'est
une quasi-certitude.
Vous y croyez ? Une quasi-certitude.
C'est une quasi-certitude.
C'est la fin de Mardi Politique réalisée par Olivier Roux. Merci Benoît Apparu d'être passé par RFI. Merci à nos partenaires France 24, Libération, Roselyne Fèvre, Alain Offray. Rendez-vous à tous la semaine prochaine.